Jusqu'à l'aube du XIXe siècle, la doctrine et les pratiques du droit de punir sont semblables un peu partout en Europe continentale. Le droit romain et le droit canonique forment les droits savants du Moyen Âge. Seuls à faire l'objet d'un enseignement, ils vont provoquer une révolution juridique décisive. Dans les universités, les juristes formés avec les mêmes méthodes apprennent à parler la même langue juridique. Cet enseignement spécialisé du droit se diffuse donc dans l'Europe via les universités. Bologne, ville d'Italie du Nord, joue un rôle très important dans ce processus. Les droits savants ont donc été un facteur d'unification du droit. Mais dans chaque pays existent parallèlement des coutumes locales qui se dénombrent par centaines. Ce sont des règles de droit limitées dans l'espace, par opposition à la vocation universelle accordée aux deux autres corpus. Ce pluralisme des sources et des systèmes juridiques, jurisprudence, droit romain, droit canonique, génère des incertitudes et des conflits dans l'administration de la justice. Aussi s'est-il avéré nécessaire d'unifier et de régulariser la pratique pénale, renforçant ainsi progressivement les principes de la légalité. Ce mouvement de concentration des sources et de coordination du droit est relayé par des spécialistes qui s'attellent notamment à la rédaction d'instruments de travail destinés aux juges tels des recueils de droits coutumiers. Vous pouvez admirer un recueil datant de 1747 à la Bibliothèque centrale du pouvoir judiciaire. Sous l'Ancien Régime, les peines doivent dissuader les gens de commettre des délits. C'est pourquoi les exécutions des sentences sont publiques et souvent supplicières. Quatre grands types de peines existaient depuis l'Antiquité. Le bannissement à temps, temporaire ou perpétuel, qui place l'infracteur dans la mort civile de l'exil. L'amende financière, le supplice public qui peut violenter le corps jusqu'à la mort, et la privation de liberté par enfermement carcéral dans divers lieux, couvents, hôpitaux, galères ou le bagne. À Genève, le régime pénal se décline en peine capitale, galère perpétuelle ou à temps, bannissement perpétuel ou à temps, fouet, amende honorable, ainsi que d'autres usages de contraintes tels que la repentance disciplinaire, de moralisation, etc. Le tournant majeur du XVIIIe siècle. Le renouvellement de l'ordre juridique correspond à l'émergence d'un nouveau courant intellectuel, les Lumières. Ce mouvement européen se caractérise par son attitude critique. Toutes les institutions sont passées au crible de la raison. L'inégalité juridique liée à la société d'ordre, l'inhumanité du droit pénal et de la procédure pénale résistent mal au questionnement des philosophes. Le modèle proposé assigne une nouvelle finalité à l'ordre juridique et propose un système où l'État est seul à poser les règles de droit. D'abord élitiste, ces idées se répandent, grâce notamment au perfectionnement des instruments de diffusion de la pensée, l'impression bon marché. Puis elles trouvent un écho favorable dans la bourgeoisie. Quelle est la nature profonde du changement? Ce qui prime, ce n'est plus le rapport entre les individus, mais l'individu lui-même placé au cœur du droit. On lui reconnaît dorénavant des droits fondamentaux qui font l'objet d'un texte fondamental, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1793. Dès lors, pour être légitimé, l'ordre juridique doit la respecter. On assiste, pendant la révolution genevoise de 1792 à 1794, au triomphe du principe de la légalité des délits et des peines. Avec la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme social, qui place l'action de la justice sous la stricte souveraineté de la loi, nul ne doit être puni qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Les législateurs genevois adhèrent au mouvement de codification européen qui rationalise le domaine pénal. Cela pour protéger les droits naturels des individus. Dès le milieu du XVIIIe siècle, les procureurs généraux et les avocats contribuent également à cette modernisation pénale par leurs réquisitoires et leurs plaidoiries. Si dans l'Europe continentale d'Ancien Régime, les avocats exercent principalement leurs compétences dans des affaires civiles, Genève constitue une exception dans le paysage judiciaire d'alors. En effet, dès 1734, la défense des criminels de droit commun y est légalisée. Le régime suppliciaire, quant à lui, heurte maintenant les sensibilités et l'on prône l'humanisation de la justice. Les mutilations corporelles et le supplice de la roue sont supprimés au profit de la détention dès 1750. En considérant la criminalité comme un problème social plutôt que moral, on tente de corriger le condamné par l'enfermement, peine de prison, et le travail. Enfin, la peine capitale recule tout au long du siècle. À la toute fin du XVIIIe siècle, Genève, étant passée sous domination française, se dote du guillotine, désormais seule et unique opération de l'exécution capitale. Comment évoluent les droits politiques et la démocratie à Genève? Pendant tout ce siècle, une longue série de conflits oppose des groupes sociaux dont les intérêts et les visions de la société divergent. Leurs origines proviennent de l'inégalité dans les droits dont jouissent les Genevois de l'Ancien Régime. Il y a, d'une part, les détenteurs de droits politiques et des droits civils, et d'autre part, ceux qui n'en sont dépourvus. Ces derniers, devenus majoritaires en ville, luttent pour améliorer leur statut et obtenir l'égalité des droits. S'ajoutent également les mouvements de protestation d'artisans, de compagnons ou d'ouvriers qui tentent d'améliorer, quant à eux, leurs conditions de travail. 1792 marque la fin de l'Ancien Régime à Genève. Une nouvelle constitution, promulguée en 1794, instaure un régime de démocratie directe. Elle consacre le principe de la séparation des pouvoirs et la souveraineté du peuple. Les événements genevois ont un large retentissement en Europe, notamment par leur caractère répétitif. Genève est également considérée comme une véritable caisse de résonance des idées des Lumières. En effet, en posant la question de la souveraineté du peuple, les revendications populaires rejoignent les préoccupations philosophiques de l'époque.